Vous êtes jeune, vous êtes curieux, nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, astuces people, emploi, environnement, nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, point de vue et portrait de jeune. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Comment lutter contre la déforestation en milieu rural? Vous savez, la destruction des forêts constitue une vraie menace pour l'écosystème en République démocratique du Congo. Les populations autochtones exploitent les forêts pour obtenir la braise et pour l'agriculture. En outre, l'industrie du bois se livre à un abattage intense des arbres. Dans la plupart des cas, cette activité s'est faite à grande échelle sans le moindre reboisement. Que faire pour protéger les forêts en milieu rural? Pour en parler, nous recevons Jean Dédieu Mingou, expert en environnement et développement. Jean Dédieu, ma première question est de savoir aujourd'hui quelle est l'état, la situation de nos forêts à travers le pays. Est-ce qu'on peut dire que la destruction a pris de l'ampleur?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation que vous m'avez lancée et pour l'opportunité que vous me donnez encore une fois de plus pour m'exprimer sur cette question cruciale qui est de la destruction des forêts en République démocratique du Congo. Et avant d'aborder des données de réponse par rapport à cette question, je voudrais d'abord citer que la République démocratique du Congo renferme 125 millions d'hectares de forêts. Donc, les forêts dans notre pays représentent au moins 50% de la superficie nationale. Donc, la destruction de cet écosystème aura sûrement un impact sur la République en général, sur la vie des communautés qui vivent aux dépens de la forêt. Au niveau mondial, on peut dire que la destruction de la forêt par an peut se situer autour de 13 millions d'hectares par an. Il y a au moins par an, au niveau mondial, 13 millions d'hectares de forêt qui sont détruits par l'effet de la déforestation et de la dégradation de forêt au niveau mondial. Et en République démocratique du Congo, les statistiques montrent que si les efforts nécessaires ne sont pas fournis par le gouvernement de la République et par la société civile d'ici 2030, la RDC devrait perdre autour de 12 à 14 millions d'hectares de forêt qui devront partir. Donc, il y a des efforts nécessaires qui doivent être fournis pour pouvoir protéger la forêt parce que la forêt joue un rôle important pour la vie des communautés congolaises.
Mais comment se fait cette destruction de la forêt?
Alors, la destruction de la forêt se fait de plusieurs manières. Et la première cause qui contribue à la destruction des forêts pratiquement en République démocratique du Congo, c'est l'agriculture commerciale et l'agriculture vivrière. Aujourd'hui, il y a des hectares et des hectares de forêt qui sont mis à feu parce que les gens doivent réaliser les champs, les gens doivent remplir
l'agriculture sur brûlis.
L'agriculture sur brûlis. Donc ça, c'est l'agriculture qui est réalisée généralement par les populations là, par les populations rurales. Mais il y a également une agriculture commerciale qui est réalisée par des grandes entreprises. Quand vous allez, par exemple, dans la province de l'Équateur, il y a des hectares et des hectares de forêt qui ont été coupés pour remplacer par les plantations de palmiers à huile. Ça, c'est l'agriculture commerciale. Également pour les plantations de caféiers, de cacaoyers. Donc, ça, c'est la cause principale de la destruction des forêts en République démocratique du Congo. La deuxième cause, vous l'avez déjà dit dans la présentation, c'est l'exploitation commerciale du bois. Ça contribue beaucoup à la déforestation dans notre pays. Et là, il faut, essayer de préciser que lorsque les gens ont des concessions forestières en République démocratique du Congo, il n'y a pas une politique de reboisement. Ça n'existe pas.
Il n'y a pas. Et pourtant, il semble que ces gens payent une certaine taxe de reboisement.
Oui, ils payent la taxe de reboisement, mais ils ont la responsabilité, et même également de reboiser. Ils n'ont pas seulement la responsabilité de couper, mais ils ont également la responsabilité de reboiser les gens qui ont été déforestés. Et ça, dans la plupart des cas, à cause de la faiblesse de l'administration dans notre pays, les exploitants forestiers coupent les forêts, mais ils ne reboisent jamais. Donc voilà la situation dans laquelle se trouve le pays. Ça, c'était la deuxième cause de la déforestation. La troisième cause, vous l'avez déjà également évoquée, nous devons savoir que nous avons au moins 90% de la population qui arrive à régler leurs problèmes énergétiques à partir de la forêt, à partir de la ressource de bois de source. ou de charbon de bois. Mmh. Et cela contribue sérieusement à la destruction des forêts en République démocratique du Congo.
Donc, il y a une certaine pression sur la forêt.
Il y a une pression sérieuse sur la forêt. Vous faites un tour, je crois que vous étiez au plateau de Bateke, je suivais l'émission mercredi.
Au village Mampou.
Au village Mampou, et vous avez vu que dans les plateaux, en dehors des efforts qui sont finis, il y avait déjà des galeries forestières maquées qui existaient, mais ces galeries ont complètement disparu à cause de la pression de la population qui a besoin de l'énergie, qui a besoin de bois de soupe, qui a besoin de charbon de bois pour pouvoir faire.
Aujourd'hui, il n'y a que la savane. Hein.
Aujourd'hui, c'est la savane, il n'y a presque rien, mais il n'y a aucune politique de reboisement pour permettre à ces populations de vivre librement. Ces gens-là, où est-ce qu'ils vont trouver de l'énergie? Il n'y a plus de quoi. Aujourd'hui, les quelques forêts artificielles qui sont en train de recueillir sont également abattues dans les airs ou les jours qui viennent. Mmh. Donc, ça, c'est la troisième cause de la déforestation dans notre pays. Quatrième cause, nous pouvons citer ça au niveau de l'urbanisme. Il y a dans certaines régions forestières, à cause de l'urbanisation croissante, et certaines superficies forestières sont complètement coupées pour laisser la place aux bâtiments, etc. etc. Mmh. Et cinquième cause de la restauration, nous pouvons parler de l'exploitation minière. Là, il faut dire que je suis également dans notre radio ici, où l'un des parcs de la République démocratique du Congo qui se trouve dans la partie orientale du pays, il y a l'exploitation du pétrole qui se fait. Et lorsqu'on exploite le pétrole dans une aire protégée, bien sûr qu'il y a la destruction de l'écosystème, il y a la destruction des forêts, il y a la destruction de la biodiversité qui existe dans la région. Mmh. Donc tout ça, ça contribue à la déforestation dans notre pays. Donc voilà, de façon brève, les quelques éléments qui contribuent à la déforestation.
Alors, avant de parler de la lutte, dites-nous, Jean de Dieu, quelles sont les conséquences de cette destruction des forêts?
Ok, les conséquences de la destruction des forêts sont énormes. J'aimerais essayer un peu d'aborder un problème, parce que lors d'une discussion avec un ami qui travaille au ministère, il m'a dit, eh bien voilà, nous avons intérêt à couper notre forêt parce que ce n'est pas nous qui avons pollué l'environnement, c'est qui ont pollué l'environnement, c'est qui ont la responsabilité de pouvoir lutter contre le changement climatique. Je lui ai dit, en fait, le problème du changement climatique, ce n'est pas un problème de pays développés ou de pays sous-développés, c'est un problème planétaire. Parce que les effets du changement climatique vont se faire sentir partout. Pour répondre directement à la question, lorsqu'on détruit les forêts en République démocratique du Congo, quelles sont les conséquences? C'est ça la question que vous avez posée.
Voilà.
La première conséquence, c'est que nous devons savoir que des millions de Congolais vivent au dépens de la forêt. Il y a ce qu'on appelle le produit forestier non ligné. C'est-à-dire les champignons, les chenilles, les gens vont les chercher au niveau de la forêt pour pouvoir se nourrir. Mmh. Aujourd'hui, si nous devons détruire tout ce que nous avons comme écosystème forestier, nous n'allons plus voir tout ce qu'il y a comme chenilles qui se trouve sur le marché, c'est ça qui provient de l'Équateur, des régions forestières. Nous n'aurons plus de champignons. Notre vie est directement liée à la forêt. Deuxième conséquence de la déforestation. Ça, c'est une conséquence nationale et c'est la République qui va en pâtir. Mmh. Aujourd'hui, si la République n'arrive pas à gérer de façon responsable tout ce que nous avons comme écosystème forestier, ça aura de l'impact sur le plan économique dans notre pays. Vous savez que les régimes hydrologiques du fleuve Congo dépendent principalement de tout ce qu'il y a comme écosystème forestier.
Donc, par quel mécanisme?
Mais à partir déjà, quand vous voyez à partir de la source au niveau de l'Oualaba et le fleuve passe par la province orientale, l'Équateur, c'est l'écosystème forestier qui permet de réguler le système de fonctionnement du fleuve Congo. Aujourd'hui, si nous détruisons tout ce que nous avons comme forêt, exactement, c'est le fonctionnement du fleuve Congo qui ne sera plus correct et tout ce qu'il y a comme biodiversité associée à ça. Et comme effet direct, c'est le barrage d'Inga qui ne fonctionnera plus correctement. Et quand on sait le rôle que joue ce barrage par rapport à l'économie nationale, et je me dis que les dégâts risquent d'être très graves. Donc, si nous ne gérons pas très bien les forêts, ne pensez pas que les effets seront au niveau seulement planétaire, mais nous serons les premières victimes de la mauvaise gouvernance de nos forêts en République démocratique.
Un auditeur de Jean Dambos, il nous appelle Écologie dans la province du Katanga. Jean, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à tous les invités de la radio Papier.
Quelle est
votre préoccupation concernant le sujet? Il faut prononcer, nous avons plusieurs médecins praticiens qui utilisent les racines des plantes pour guérir les gens. Alors, ma question est de savoir si eux aussi peuvent contribuer à la déforestation en coupant les racines des plantes.
Les praticiens.
Voilà.
Merci, Jean Désir.
Oui, merci. En fait, la question est tellement fondamentale. Et il dit, est-ce que nous avons ici au niveau de Colusi, ce qu'on appelle ceux qui font la médecine africaine, et ils vont au niveau de la forêt chercher tout ce qu'il y a comme racines de plantes pour pouvoir venir
pour faire leur portion,
leurs produits. Voilà. Ouais. Est-ce que cela peut contribuer à la douceur? Ça dépend de la manière dont les gens utilisent, de quel type de racines, quel est le degré de l'impact de toutes ces pratiques sur la forêt. Mmh. Mais en tout état de cause, nous ne pouvons pas dire que cette activité n'a pas d'impact sur la dégradation. Ça a un impact sur la dégradation de la forêt. Mais ça dépend de la manière dont ils sont en train de faire. C'est pourquoi, dans le cadre de la gestion durable des forêts, c'est l'ensemble des acteurs de la vie nationale qui doivent être impliqués. Parce que les paradis traditionnels vont là. Vous avez les populations rurales, vous avez les experts. Il faut une grande collaboration, une grande participation pour que la forêt soit gérée de façon efficace. Mais nous ne pouvons pas dire qu'ils ne doivent plus aller chercher des produits au niveau de la forêt. Mmh. Mais ils doivent le faire tout en sachant que demain, ils auront besoin encore des racines de plantes pour pouvoir.
Parce qu'ils abattent les arbres.
Ils n'abattent pas les arbres. Ils prennent peut-être que des racines, mais ça dépend de la manière dont ils vont pour récolter ces racines. Mais sinon, ils doivent être impliqués dans les politiques nationales en matière de gestion des forêts.
Comment lutter contre la déforestation? On en parle à présent avec Jean Dédieu Minengou, expert en environnement et développement. Des questions, des préoccupations, composez le 081-890-6394.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Comment lutter contre la déforestation en milieu rural? Alors parmi les gens des îles, vous êtes en train de parler des conséquences. Aujourd'hui, on parle du changement climatique. Cela est lié intimement à la forêt.
Merci. Voilà. Parmi les conséquences, vous venez de parler, quel est le rôle de la forêt par rapport à l'équilibre climatique? Aujourd'hui, je dois préciser que la forêt congolaise joue un rôle important au niveau planétaire par rapport à l'équilibre du climat. Notre forêt séquestre jusqu'à 140 gigatonnes de CO2. C'est énorme. Aujourd'hui, si nous n'allons pas très bien gérer cette forêt, en la coupant, nous allons renvoyer dans l'atmosphère 140 gigatonnes de CO2 à l'atmosphère. Et cela aura sûrement des répercussions sur le changement climatique et sur la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Donc la forêt joue un rôle important sur le climat en absorbant le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère et le séquestre pendant de longues années. Et ça joue un rôle important. Donc si nous disons la forêt, sachez que nous sommes en train de contribuer aux impacts du changement climatique. Et là, il faut préciser que la question du changement climatique, comme je l'ai dit, ça ne concerne pas seulement les pays émergents ou les pays développés. Dans l'article 10, je crois, du protocole de Kyoto, il y a un principe important qu'on appelle le principe de responsabilité commune et différenciée. C'est que nous sommes tous responsables du changement climatique, mais à des niveaux différents. Les pays occidentaux ont contribué beaucoup plus au changement climatique, mais la République démocratique du Congo ne pouvait pas dire « nous, on n'a pas contribué au changement climatique ». Non, nous contribuons au changement. Notre agriculture, c'est l'agriculture qui l'oublie. Nous renvoyons dans l'atmosphère des quantités importantes de CO2 dans l'air. La manière dont nous gérons les déchets dans nos villes renvoie les gaz méthane qui ont un pouvoir de réchauffement climatique beaucoup plus important que les CO2. Cela montre également que nous participons également au changement climatique, mais à des degrés différents. Et la République démocratique du Congo, en signant les protocoles de Kyoto, en signant la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, en participant au mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, le Congo a tout intérêt à participer aux efforts de la communauté internationale pour pouvoir atténuer les effets du changement climatique, c'est-à-dire par une gestion efficace et transparente de ces forêts.
Voilà ce que je voulais dire. Un auditeur en ligne à Confiance Kabongo, il est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui. Bonjour, notre invité.
Bonjour.
Bonjour, sur le réseau de la radio Capi.
On vous écoute, Confiance.
En fait, je suis content que l'auditeur, l'invité, ait parlé de différentes causes de la déforestation. Mmh. Mais il a été beaucoup plus volatile. Est-ce qu'il peut nous aider à voir, selon chacune des causes de la déforestation, le terme, en termes de pourcentage, que cette façon de détruire la forêt contribue à autant de pourcents, pour que nous puissions voir dans quelle mesure prioriser les solutions, hein, dans quel sens nous pouvons apporter notre contribution dans le sens de prioriser la protection. Donc, s'il parlait par exemple de la culture vivrière, à hauteur de combien de pourcentage elle contribue à la destruction de la forêt. Comme ça, nous saurons voir si, dans quel sens est-ce que nous pouvons donner la priorité pour la protection.
Merci, Conférence Kabongo. Josué Katamba, État Kinshasa.
Oui. Bonjour. Premièrement, j'aimerais savoir comment sont les mesures qui permettent à ce que les gens ne puissent pas utiliser trop de la déforestation. Et puis, deuxièmement, j'aimerais que les secteurs nous donnent des mesures préventives qui nous donnent à protéger nos différentes forêts. Merci.
Merci, Josué Katamba. Jean Béliou.
Oui.
Vous avez la parole.
Merci. Conscience a posé une très belle question et en termes de pourcentage par rapport à ça. Ça, c'est une question extrêmement importante. Parmi les causes de la déforestation, j'avais dit que la première cause, c'était l'agriculture commerciale et l'agriculture vivrière. Et ça, je dois dire à notre ami Conscience qu'il doit prendre des mesures parce que l'agriculture intervient à 64% pour la déforestation en République démocratique. 64% de la déforestation dans notre pays est due à l'agriculture commerciale et l'agriculture vivrière. Ça, c'est au niveau de l'agriculture. Deuxième activité qui contribue également à la déforestation, c'est dû à l'exploitation commerciale du bois. L'exploitation du commerce du bois contribue également à la déforestation.
À quel pourcentage?
À 6% au niveau de l'exploitation commerciale, parce que la quantité de bois qui sont extraites par an, on est autour au moins de 300 000 mètres cubes de bois extraits de forêts congolaises par an. Donc cela contribue autour de 6%. Et bien d'autres activités, vous avez par exemple la recherche du bois de chauffe, vous avez par exemple l'urbanisation, vous avez par exemple les recherches minières, les autres là contribuent également à la déforestation.
À quel pourcentage?
Au moins de 29% de contribution au niveau de la déforestation. Alors, à ce qui concerne la dégradation, parce que la différence existe entre la déforestation et la dégradation des forêts.
Quelle est cette différence?
Donc, je donne des exemples très simples pour la déforestation. Vous avez 10 hectares de forêt que vous avez visité à Mampo. Ça, c'est une forêt artificielle. 10 hectares, je donne un exemple, 10 ou 1000 hectares.
C'est 8 hectares.
8 hectares, par exemple. Vous avez 8 hectares de forêt qui ont été créés.
Lorsqu'on parle. Donc, 8000 hectares de forêt artificielle.
Voilà, vous avez 8000 hectares de forêt artificielle.
Oui.
Et ces forêts sont coupées. On coupe ces forêts pour remplacer, par exemple, par une culture de manioc. Ça, c'est la déforestation. Mais vous avez. Par exemple, toujours ces 8 000 hectares, au lieu que les gens les coupent pour les remplacer par la culture du manioc, je ne sais pas, par une autre culture, mais 7 hectares de forêt part en fumée à cause de ces débouches. Ça, c'est la dégradation des forêts. Donc, par rapport à la dégradation, on peut dire que l'activité commerciale du bois contribue au moins à 27% à la dégradation de la forêt, contrairement à l'agriculture. Mmh. Et les autres secteurs, par exemple, le feu de bousse, la recherche de bois de chauffe, là, c'est autour de 5 à 6% de contribution par rapport à la dégradation de la forêt.
C'est quand même énorme. Hein.
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est énorme.
Ah, ouais. Josué a parlé des mesures. Oui. Josué Katamba, il vous pose la question de savoir quelles sont les mesures à prendre au niveau du gouvernement et les mesures pour protéger la forêt. Avant de répondre à sa question, nous allons accueillir M. Kadanga, qui nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kassan.
On vous écoute.
Oui, merci pour la parole. Je profite de l'occasion pour dire une défense à mon grand service. Je voulais poser la question à notre invité. Comment est-ce qu'il convaincre les agents de chômage à ces dérivages si toutefois on tente de détruire la forêt pour planter un peu d'arrivée pour le maïs, un peu par là pour planter un peu dans le cadre qui a l'ingénieur ou j'ai.
Merci Kadanga, Jean Désir.
Oui. Voilà, je commence directement par Katanga et puis je vais répondre aux mesures. Et notre ami Katanga, comment convaincre les populations à ne plus détruire la forêt parce qu'ils détruisent la forêt. En fait, la première cause, parmi les causes de la destruction de la forêt, nous avons parlé d'abord de la nourriture. Les gens sont appelés à faire l'activité agricole pour pouvoir vivre. Mais le plus important, comment faut-il faire la production agricole tout en préservant la forêt. Aujourd'hui, il y a des mesures très, très, très importantes qui me parlent de l'université. À l'université, ils connaissent ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est ça qu'il faut vulgariser auprès des communautés locales.
C'est ce qui est fait, par exemple, à Mampo.
C'est ça qui est fait.
Vous avez des hectares d'acacia et à côté, vous avez la culture vivrière.
Exact. Donc, c'est ce système.
Donc, il faut faire les deux à la fois.
Il faut faire les deux à la fois.
C'est l'association.
C'est pas ça. C'est le système qu'il faut vulgariser auprès des communautés locales pour pouvoir à la fois réaliser la production agricole et à la fois
joue un rôle dans la préservation de l'environnement ou des forêts.
Ça, c'est important. Ça peut permettre aux ONG et aux acteurs de la société qui participent à un tel programme de bénéficier de ce qu'on appelle les crédits carbone. Et c'est possible. Déjà, M. Tou, au niveau des mangas dans les projets EBI, ils ont reçu des crédits carbone parce qu'ils ont mis en place un système d'agroforesterie qui permet de séquestrer les carbones au niveau de l'atmosphère et ça permet de réaliser également la production alimentaire. Donc, l'agroforesterie, c'est le système qu'il faut vulgariser auprès des communautés locales. Là, il appartient à l'État de mettre sur pied un programme viable d'agroforesterie. Le malheur est que dans ce pays, ces choses n'existent pas. Ce n'est pas une priorité pour le gouvernement congolais. Ils ont d'autres priorités. Et les priorités de développement agricole, les priorités de protection des forêts naturelles pour participer aux efforts du changement climatique, ça, ce n'est pas encore une priorité. Mais je crois que les ONG congolais sont
les systèmes de Mampou, par exemple,
peut
être répliqué ailleurs à travers le pays.
Exact, monsieur le journaliste. C'est un système qui peut être répliqué, mais qui va répliquer. Ce projet a été financé par l'Union européenne, ce n'est pas le gouvernement congolais. Mais quelles sont les initiatives en termes de reboisement communautaire, en termes d'agroforesterie, que le gouvernement congolais a pu soutenir pour pouvoir permettre à la population de vivre dignement, sans toutefois détruire les forêts. Alors, pour aller à la question sur les mesures pour réduire la déforestation, les mesures sont nombreuses. Mais la première mesure, il appartient à l'État congolais d'avoir une vision claire et de mettre sur pied un programme au niveau national. Pas des programmes qui ne sont pas respectés, on écrit des choses sur le papier, à la fin on jette ça dans les tiroirs, on n'en parle plus. Non, mais un programme qui doit vivre, un programme qui doit être suivi. Tant qu'il n'y a pas de volonté politique en matière de protection de forêts, en matière d'agroforesterie, en matière de reboisement communautaire, il n'y a rien qui doit se faire.
Tout dépend de la volonté
politique. Tout dépend de la volonté politique qui n'existe pas encore jusque-là en République.
Alors, avant de poursuivre, un auditeur est en ligne, Jean Metunita, il nous appelle de Bounia dans la province orientale. Bonjour Jean.
Oui, bonjour monsieur l'animateur. Je salue l'invité. Je tente de le suivre vraiment avec intérêt parce que c'est un terrain sur lequel nous sommes, disons, investis pour cogiter dans tous les plans philosophiques. Aujourd'hui, on parle justement de la protection de l'environnement, on parle de sauvegarde de l'environnement. Il y a toute une multitude de concepts qui descendent comme ça. On n'arrive plus à se dire, il s'agit de quoi. Mais je pense que la question de la protection de l'environnement dépend de la politique de chaque gouvernement. Et aujourd'hui, quand l'Europe ou l'Occident s'investit jusqu'à même, passez-moi l'expression, parler de s'imposer, et imposer même à chaque gouvernement de protéger l'environnement, mais c'est là où peut-être interviendra ma question, est-ce que la communauté internationale ou l'Occident ne pense pas que chaque gouvernement a une autonomie de gérer ce patrimoine. Bien sûr, l'invité pourra me dire que le patrimoine de chaque pays, lorsque vous le détruisez, en même temps, vous détruisez l'humanité. Ça, je n'en disconviens pas. Mais quel est le pourcentage en termes de quotas que les pays grandement industrialisés contribuent pour donner justement par exemple au Congo. Aujourd'hui, j'avais suivi une fois là en palais, on a financé le Brésil, on a financé des pays ou des régions qui ont des forêts à grande étendue.
Oui.
Mais le Congo, tout le Congo, c'est combien de pourcents pour
ce qui doit
revenir au Congo.
Merci beaucoup. Mmh. Rapidement.
Oui, allô?
Oui, allez-y rapidement.
Mmh. Oui. Et ensuite, à l'invité, je vais lui demander, selon lui, est-ce qu'il ne voit pas que aujourd'hui on parle de réchauffement climatique, c'est normal qu'on parle de réchauffement climatique et qu'on ait ce réchauffement climatique parce que le monde aujourd'hui est comme une vie. Une vie qui doit naître, qui doit grandir et qui doit mourir. Si on a des réchauffements climatiques, qu'on comprenne que normal que voilà le mouvement vers la fin. Je ne sais pas si je vais me mettre ici dans ce
moment. Merci, Jean-Méthilita.
Merci, l'État, c'est l'État de la paix. Bon, après, la question du réchauffement climatique, comme notre ami, je crois qu'il a déjà beaucoup d'expérience dans ce qu'il est en train de dire. La question du réchauffement climatique, ce n'est pas une question de biblique, à mon avis. C'est une question de notre mode de vie. Avant la révolution industrielle, mon frère, la concentration du CO2 dans l'atmosphère était autour de 260 parties pour million. Mais aujourd'hui, avec l'utilisation abusive de l'énergie fossile, avec l'utilisation abusive des forêts, avec tout ce qu'il y a comme mode de vie qui est en train d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, aujourd'hui la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on parle de plus de 380 parties pour million. Donc, si les efforts nécessaires ne sont pas fournis, alors la concentration du CO2 d'ici là pourra aller jusqu'à 100 000 parties pour million, et ça, ça aura des répercussions sur le réchauffement climatique, particulièrement l'augmentation de la température. Donc, quand il dit que nous, on nous demande, on parle de la protection de l'environnement, etc., il y a des pays comme le Brésil, il a évoqué un problème. Le Brésil, c'est le pays qui a mobilisé beaucoup de financements internationaux.
Et pourquoi pas la RDC?
Bon, en fait, pourquoi pas la RDC? Merci, M. Joudi. Le problème, c'est-à-dire le développement d'un pays, comme on l'a toujours dit, ce n'est pas une question des ressources naturelles. Le pays dispose de 125 millions d'hectares de forêt. Le pays a 90 millions d'hectares de savane. Le pays a 24 millions d'hectares de prairies et de pâturages. Le pays a 4 millions de terres irrigables. Le pays peut produire jusqu'à 700 millions de tonnes de poissons. Mais tout ça sont des potentialités. Ce n'est pas ça qui va développer le pays. La plus grande richesse pour le développement du Congo, c'est la qualité des ressources humaines. Il y a des pays qui n'ont absolument rien. Mais ces pays ont fourni des efforts pour avoir des ressources humaines qualifiées.
Et ils ont protégé leurs forêts.
Ils ont protégé leurs forêts. Ils sont allés chercher des ressources ailleurs pour améliorer les conditions de vie des gens. Donc, le plus grand problème aujourd'hui en République démocratique, c'est la qualité des ressources humaines qui pose problème. Quand je parle des ressources humaines, je ne parle pas des gens intelligents, des gens qui parlent français, des gens qui ont des diplômes de docteur, des gens de licenciés, des journalistes, des médecins, des ingénieurs. Je parle de ces femmes et de ces hommes qui sont capables et qui ont la volonté de prendre un certain nombre de savoirs pour pouvoir régler les problèmes de la société, pour transformer tout ce que nous avons comme potentialité en bien et service. Ces gens-là, la République démocratique du Congo, il faut être courageux pour le dire que nous n'en avons pas encore. Le jour que le Congo aura des ressources humaines qualifiées, avec tout ce que nous avons comme contexte, le Congo deviendra un paradis. Il n'y aura plus un Congolais dans les ambassades pour aller chercher des visas. Mais je crois que nous n'avons pas encore cette catégorie de personnes. Et le jour qu'on aura, on va voir. C'est pourquoi vous avez vu des pays comme le Brésil, qui a fourni beaucoup d'efforts dans la formation des hommes, qui a des ressources humaines qualifiées, a mobilisé beaucoup de fonds dans le cadre du mécanisme pour le développement propre, mais dans le cadre également du mécanisme REP. L'éduction des émissions, lié à la déforestation, à l'éducation.
Voilà, mais le Congo, non. Donc c'est un problème de... Vous voulez dire des gens qui aiment ce pays
et c'est un problème de volonté politique, c'est un problème de stratégie, comment faut-il négocier au niveau international. Ce n'est pas quand on va en négociation, on s'amène avec des jeunes gens et puis finalement ils disparaissent. Pendant, on ne sait pas bien poser le problème du Congo.
Oui.
Pendant que la conférence n'a pas encore pris ça.
Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, je suis un Kinshasa.
On vous écoute donc.
Oui, ma question risque d'être démodée, mais je la pose.
Oui, vous la posez, docteur.
Le Congo regorge à peu près 96% d'analphabètes. Comment on peut s'y prendre devant un programme si ambitieux comme on nous le présente, avec des gens qui aiment le Congo? Comment on peut s'y prendre? 98 ou 96% d'illettrés, même si on a la bonne volonté. Il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. Merci beaucoup.
Merci, docteur Richard. Oui, en fait, pour lui, c'est l'analphabétisme qui fait que le pays ne puisse pas aller de l'avant. Ok, je crois que le problème d'analphabétisme, c'est un problème. Si vous avez déjà 4% de lettrés, je crois qu'avec 4% de lettrés, on peut augmenter le nombre de lettrés si ces 4% ont une vision claire par rapport à la société. Ils peuvent mettre des mécanismes. Je connais des gens. J'ai géré un projet. Nous avions travaillé avec la coopération technique belge dans l'Interland de Kinshasa. Nous avions un projet où nous avions encadré plus de 300 maraîchers. Je vous dis, monsieur le journaliste, il n'y avait pas 70% des personnes qui savaient lire et écrire. C'était instant pour le déroulement du projet. Nous avions introduit dans le projet l'aspect alphabétisation. Et je vous dis, au bout d'une année, les mamans de 70 ans commençaient à peine à écrire son nom et à faire quelques calculs. Ça dépend de la vision. Je ne crois pas. Aujourd'hui, si on a 96% d'analphabètes, mais qu'est-ce que les lettrés, les 4% font pour faire sortir même 10 ou 15% des autres pour les amener dans le cercle des gens qui savent lire et écrire. C'est ça le problème.
C'est un problème de vision.
C'est un problème de vision, c'est un problème des stratégies qu'il faut faire pour amener les pays.
Alors aujourd'hui, pour terminer, Jean de Dieu, quelles sont les stratégies, les grandes stratégies pour lutter contre la déforestation à la RDC?
Ok. Merci, monsieur le journaliste. Parmi les stratégies pour lutter contre la déforestation, pour moi, je continue à dire, la première stratégie à mettre en œuvre, c'est une stratégie nationale pour une gestion durable des forêts. Il faut que le gouvernement mette une stratégie, mette des programmes.
Certains disent qu'il faut développer des énergies alternatives pour protéger les forêts.
C'est dans la stratégie. Si le gouvernement ici, aujourd'hui, il y a des projets partout. Parce que nous avions dit que les gens aujourd'hui vont au niveau des récoltes jusqu'à 41 millions de mètres cubes de bois pour pouvoir régler les problèmes de l'énergie. Mais si aujourd'hui l'État congolais, dans une stratégie nationale de protection de gestion durable des forêts, amène de l'énergie autre que le bois à la population, il y aura moins de pression sur les forêts pour la recherche du bois. Si les gens ont de l'énergie à partir du solaire, si les gens ont de l'énergie à partir des éoliennes, à partir des centrales thermiques, mais il y aura moins de pression sur la forêt. Tout ça, c'est au niveau de la stratégie. Mais également, dans cette stratégie, il faut que les populations locales qui vivent à côté des forêts soient impliquées par rapport à ça. Et j'aimerais terminer. Mmh. Aujourd'hui, il y a la stratégie RED. Il y a un programme à République démocratique qu'on appelle RED.
Qu'est-ce que cela veut dire, RED?
Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts.
Mmh.
Donc, dans ce programme, c'est que tous les États, ou tous les États qui participent dans ce programme devraient bénéficier de ce qu'on appelle des avantages financiers par rapport à tout cela. C'est-à-dire, il faut éviter que les forêts soient encore détruites. Et lorsque vous êtes en train de produire votre forêt, il y a le stock de carbone qui est maintenu, soit augmenté. S'il y a un stock de carbone qui est maintenu ou augmenté, et la communauté internationale, à travers des mécanismes qu'ils ont su, ils vont compenser tout ce travail.
C'est ça qu'on appelle le crédit carbone.
Vous avez des crédits carbone parce qu'il y a une certaine quantité d'émissions qui a été évitée si on calcule ça, en fonction du prix, ça dépend 10, 15, 20 ou 30 euros la tonne. Et vous avez des financements énormes. Le Brésil a obtenu des milliards par rapport à ce processus. Mais le Congo, rien, parce que on croit qu'il faut aller courir derrière les gens pour chercher l'argent, mais c'est seulement par rapport à la question climatique, le Congo peut aller de l'avant, peut trouver des financements. Mais aussi, les changements climatiques sont également un danger pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc voilà ce que je peux dire.
Voilà. On va terminer avec Kibaba, la question de Kibaba qui nous appelle depuis Siro. Kibaba, bonjour.
Oui, bonjour, Adio Capi.
On vous écoute.
Ah oui, je voudrais dire à l'invité s'il pouvait aujourd'hui spécifier la place du Fonds forestier national dans la lutte contre la déforestation qui a été anciennement appelé au nom du Fonds de reconstruction du capital forestier. Un service de l'État, un service public qui est au sein du ministère de l'Environnement. Merci,
Jean de Dieu. Ok, en fait, ce fonds ici, comme il a dit, le fonds de reconstruction forestière, c'est un fonds qui devrait servir, à mon avis, pour pouvoir reconstruire les formations végétales qui ont été détruites, ou soit là où il n'y avait pas des formations végétales, et faire ce qu'on appelle le boisement. Mais il me semble, à mon avis, comme c'est un service public, que le travail, moi je parle en fonction des résultats.
Mmh.
Et je crois qu'à mon avis, et que ce fonds-là, et qu'il existe encore, je ne sais pas, à mon avis, le travail sur le terrain, je ne le vois pas. Parce que quand vous allez dans tout près de nous, ici vous voyez la partie de la province de Bandundu, le Congo, c'est de la savane. Ces populations sont soumises aux impacts du changement climatique. Quels sont les efforts? Qu'est-ce que ce fonds a fait pour pouvoir créer des forêts? Pour mettre un système d'agroforesterie pour ces populations? Il n'y en a pas, à mon avis. Moi, je viens de là, récemment j'étais là, et je vais encore rester là, mais à mon avis, je n'ai rien. Donc, tout ça, ça.
Il y a également le centre forestier de Kingston, en fait, de la Tégué, qui bat de l'aile, qui a du mal à fonctionner.
Oui, mais il faut l'appui de l'État, mais tous ces centres-là, toutes ces initiatives, ce qui est dommage, c'est que ce sont des initiatives financées par l'étranger. Il n'y a pas d'initiative ici de protection des forêts ou de gestion durable des forêts ou de création de nouvelles forêts qui sont soutenues par le gouvernement. D'abord, quand vous allez avec un projet, et ça ne passe pas du tout, à mon avis. C'est des choses où ils ne s'occupent pas. Tout ce que nous avons comme devenu, nous avons un projet, on va appeler le reboisement dans l'Italie et tout ça, mais c'est avec le Fonds pour l'environnement mondial, le PNUD, et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le gouvernement, ça ne les intéresse pas trop. Alors que le fonds qui devrait être alloué au niveau, le fonds que le pays devrait avoir en rapport avec les mécanismes REC, devrait servir pour la gestion efficace des forêts. Créer les systèmes de production au niveau des communautés locales pour qu'il n'y ait plus trop de pression sur les forêts. Et développer l'élevage pour que les gens n'aillent plus chercher des gibiers dans la forêt parce qu'ils ont déjà, un système d'élevage très bien développé. Il y aura moins de pression sur les espèces animales. Mais tout ça, rien n'est fait. On attend la bonne volonté de Dieu pour que les choses se passent normalement.
Bien, merci Jean Didier. Expert en environnement et développement. Merci, à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.